que font les Israéliens est contraire, totalement contraire au droit international. Vous pouvez prendre dans le sens que vous voulez. Défense, pas défense, attaque, pas attaque, etc. Dans tous les cas de figure, on est dans une pratique militaire qui va à l'encontre du droit international humanitaire.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact qui vous est présenté encore cette semaine de notre studio parisien. Avec nous cette semaine, Jacques Beau. Bonjour.
Bonjour.
Qui était à ce microphone il y a quelques semaines à peine. C'était pour parler de l'Ukraine et de ce qui était votre plus récent livre consacré à l'art de la guerre russe. Alors, on change cette fois-ci de théâtre d'opération avec votre plus récent livre, Opération Déluge d'Al-Aqsa, La défaite du vainqueur, c'est le sous-titre. On comprend que nous sommes au Proche-Orient, à Gaza, bien entendu. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore bien, vous êtes colonel, chef d'état-major, ancien agent au service secret suisse, et aussi chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix à l'ONU pendant quelques années. Vous avez aussi travaillé à l'OTAN. Je montre la jaquette, la couverture de votre plus récent livre. Rebonjour, mais surtout, Monsieur Beau, première question, est-ce que vous dormez la nuit?
C'est une bonne question. Beaucoup de gens m'ont posé la question parce que le nouveau livre qui est là a 460 pages, donc on est sur quelque chose d'assez volumineux. Je me demande, vous savez, j'applique le principe de Napoléon qui disait « le jour a 24 heures et si ça ne suffit pas, il y a encore la nuit ».
Donc, vous avez fait en sorte que ces nuits soient mises à profit, quoi.
Alors, j'utilise à peu près tout. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Mais j'ai un peu triché, si on peut dire, parce que je m'attendais à ce que quelque chose éclate en Palestine. Et j'ai commencé le livre juste avant que l'opération commence.
Donc, vous avez une longueur d'avance.
J'avais une longueur d'avance. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a rappelé l'autre jour. J'étais à Genève pour une conférence et il y a un étudiant que j'avais donné au mois d'octobre, le 3 octobre, une conférence à l'Université de Genève. C'était sur l'Ukraine, hein, mais un étudiant était venu me poser la question, ce que je pensais de la situation au Moyen-Orient, et je lui avais dit qu'on était sur le point d'avoir quelque chose de sérieux qui pourrait peut-être mettre en question l'existence d'Israël.
Et c'est ce que
c'était
vous pensez.
C'était 4 jours avant, et c'est toujours ce que je pense. Alors l'existence d'Israël au sens large, parce que Israël va pas être effacé de la carte, là on est sûr. Mais en revanche, la crédibilité d'Israël, la pertinence d'Israël, aussi dans pas seulement sur place, mais dans nos esprits, parce que nous, dans le monde occidental, chez moi en particulier, dans ma famille, on a toujours grandi avec cette idée que l'État d'Israël était un petit peu la conséquence de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et que finalement, il y avait une relation de cause à effet. Et pendant des années même, on pensait que, les souffrances du peuple juif justifiait peut-être aussi que les Palestiniens souffrent un petit peu. Je simplifie un peu les choses. Et j'étais éduqué dans cette optique, comme beaucoup des gens de ma génération d'ailleurs. Et puis récemment, il y a une trentaine d'années, en étudiant le phénomène terroriste, en étudiant les mécanismes qui conduisent au terrorisme, puisque j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, dont un livre d'ailleurs sur la guerre asymétrique que j'ai écrit en 2003 et dont le sous-titre est exactement le même que ce livre. C'est-à-dire la défaite du vainqueur. Parce qu'en 2003, c'était à l'époque de la deuxième intifada, le livre est très centré sur la question palestinienne, et là je voyais déjà que Israël était totalement sur la mauvaise voie.
Ce paradoxe que le vainqueur puisse perdre la partie à long terme. À la lecture du livre, je me suis demandé si effectivement pour vous, Israël avait perdu sa valeur, si Israël comme référence, comme ça l'a été longtemps, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale, avait perdu à vos yeux sa valeur. Et je vous cite ici, parce que c'est assez violent, il n'y a pas de guillemets, c'est vous qui écrivez ici. On savait que les animaux avaient des sentiments humains. On sait maintenant que les animaux humains ont un niveau de morale et d'éthique considérablement plus élevé que certains peuples qui se veulent supérieurs. Et là, vous paraphrasez très probablement le général de Gaulle.
Je paraphrase les Occidentaux d'une manière générale parce que je rappelle que c'est même Jules Ferry, qui au 19e siècle parlait de civiliser les races inférieures, etc. Donc on a en Occident cette vision que nous sommes supérieurs. On a des systèmes économiques qui manifestement nous ont apporté une prospérité, des systèmes politiques qui ont leurs défauts mais qui grosso modo accommodent à leur manière la notion de démocratie, mais dans les grandes lignes, on est dans quelque chose qui se rapproche un peu de la démocratie quand même, malgré tous les défauts dans tous les pays. On a une approche des institutions, des relations sociales, etc., qui, c'est vrai, a donné à l'Occident, au moins au fin du 19e, début du 20e siècle, l'idée qu'on était plus avancé que les autres populations. Mais on est resté là-dessus. On est resté, et on l'a très bien vu, dans les guerres en Irak, en Afghanistan, ailleurs, et même d'ailleurs, plus récemment, dans le conflit en Ukraine. Il y a cette idée d'une supériorité occidentale sur les autres populations. Et c'est pas simplement une vue de l'esprit, puisque beaucoup l'ont écrit, et puis vous savez, même en Ukraine, d'ailleurs, il y a des gens que j'ai évoqués dans mes livres, d'ailleurs, sur l'Ukraine, qui sont proches du pouvoir, mais qui écrivent, qui parlent d'une supériorité raciale. Donc, l'idée de supériorité, elle est là. Et puis, on voit avec le conflit en Palestine que la manière dont les Israéliens mènent la guerre, tout en traitant les autres d'animaux humains, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on traite les autres d'animaux humains, mais on se comporte pire que ce que pourrait être un animal humain. Donc on voit tout d'un coup le paradoxe de cette arrogance occidentale, parce que les Israéliens sont en réalité des Occidentaux. C'est pas les Israéliens modernes sont des Occidentaux. Ils ont apporté d'ailleurs cette mentalité occidentale au Moyen-Orient, et on voit d'ailleurs les différences qu'il y a de ce point de vue-là dans l'approche des choses, dans la vision du monde, dans la manière d'aborder les relations internationales. On voit que on est dans une perspective très occidentale. Et puis quand on regarde la manière, et je l'évoquais à propos des otages qui avaient été libérés par les gens du Hamas, et ces gens qui ont été libérés, ces femmes qui ont été libérées, c'est surtout des femmes, quelques jeunes, mais surtout des femmes, elles ont souligné le respect, la prévenance même de leur geôlier. Et ça permet quand même. Alors, vous allez me dire, on peut qualifier ça de différentes manières. En tout état de cause, ça montre que ceux qu'on considère comme inférieurs sont capables de se comporter comme des gens dignes.
Ou qu'ils se préoccupaient de leur communication et de ce qu'on dirait.
C'est possible. Mais voyez, nous aussi, on se préoccupe de notre communication et pourtant on ne le fait pas.
Vous m'avez interpellé avec ces pages consacrées justement au bon traitement des otages, parce que je me suis mis à douter de moi. Et j'ai essayé de trouver des témoignages d'otages furieux disant ça s'est très mal passé. Alors il y en a qui disent après un certain temps nos conditions se sont détériorées. Oui. Et c'est probablement proportionnel aussi à ce qu'étaient les conditions à Gaza. Mais j'avoue que j'ai essayé de prendre le contre-pied parce que ça m'a provoqué un peu quand j'ai lu dans votre livre cette espèce de série de témoignages, tous plus, je ne dirais pas élogieux.
Mais qui montrent que, disons, qui vont à l'encontre du narratif qu'on a essayé de faire circuler ici, parce que cette guerre, la guerre qu'on voit actuellement à Gaza, elle a en commun, notamment avec celle qu'on a en Ukraine, qu'un côté fonde sa stratégie, base sa stratégie littéralement sur un narratif.
Donc Israël.
Alors, en l'occurrence, c'est Israël, comme d'ailleurs, du côté en Ukraine, c'est l'Ukraine. Et on voit d'ailleurs une différence, c'est des choses que j'ai détaillées, j'ai fait dans les deux ouvrages, celui-ci et puis l'ouvrage précédent sur l'art de la guerre russe, j'ai fait une sorte d'analyse des facteurs, des éléments, des facteurs stratégiques, n'est-ce pas, de réflexion, selon Clausewitz. Et de reprendre ce qu'est le centre de gravité, au sens clausewitzien du terme, etc. Et on s'aperçoit que soit pour les Israéliens, soit pour les Ukrainiens, c'est le narratif qui est central. Parce que sans le narratif, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Les Ukrainiens, sans le narratif, ils n'ont pas le soutien des Occidentaux. Pour Israël, c'est la même chose. Sans le narratif, ils ne peuvent pas mener le type de guerre qu'ils mènent contre la population de Gaza, et ils n'auraient pas le soutien des Occidentaux pour le faire. Donc le narratif est devenu une pièce centrale de la stratégie. On est un peu au-delà de la communication, on est vraiment, parce que dans la perspective en général, quand on parle comme ça, de guerre d'information, tout ça, on ne le voit pas. On le fait comme quelque chose, la propagande, comme on le voyait peut-être pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, il y a la propagande d'un côté, et puis il y a les opérations de l'autre. Ici, on est, et c'est on a le même phénomène en Ukraine qu'à Gaza, c'est-à-dire que le narratif, et j'emploie le terme narratif parce qu'il est plus large, hein. Quand on dit propagande, je sais que pour beaucoup de gens, narratif, propagande, c'est la même chose. Pour moi, propagande, c'est une chose extrêmement précise. Ça vient du terme c'est propaganda, n'est-ce pas, en latin, c'est-à-dire ce qui mérite d'être propagé. Donc, la propagande, en réalité, techniquement parlant, c'est le fait de mettre en valeur vos éléments positifs. Vous faites de la propagande quand vous faites de la publicité pour une station de ski, par exemple. Vous allez dire qu'on a des belles pistes, etc. C'est de la propagande au sens littéral du terme, c'est-à-dire que vous propagez ce qui mérite d'être propagé et vous ne propagez pas ce qui ne mérite pas de l'être.
La bonne parole, quoi.
C'est pas seulement la bonne parole, vous mettez en valeur vos côtés positifs. C'est la même chose peut-être probablement dans nos CV, etc. On fait aussi une manière de propagande parce qu'on propage ce qui nous valorise.
Par rapport au narratif, donc.
C'est inclus dans le narratif. Et puis, il y a une partie du narratif qui est composée de désinformation aussi. Et là, on est sur le fait de fustiger l'autre, de dire ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il fait, ce qu'il fait, ce serait pas de la désinformation, a priori, ce serait plutôt une propagande. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, indépendamment on va peut-être pas entrer dans trop de terminologie, mais le narratif est devenu vraiment la pièce centrale de la stratégie. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le terrain dépend de ce que vous racontez, et non pas l'inverse.
Et d'ailleurs, sur ce narratif, vous écrivez à l'endroit des journalistes, « Ceux qui s'expriment sur nos plateaux de télévision ont une vision si caricaturale et simpliste qu'on est en droit de se demander s'ils servent bien la cause d'Israël. »
Alors, c'est exactement ça, parce que ce qui se passe, et on est exactement dans la thématique de la défaite du vainqueur. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'Israël s'est lancé dans un narratif très très particulier. Et quand je dis qu'il s'est lancé dans un narratif, de nouveau, je n'invente rien parce qu'il y a, je les cite d'ailleurs dans mon ouvrage, il y a vraiment une codification de ce narratif qui a été fixé, qui a été déterminé. Et tout récemment encore, il y a un média américain, The Gray Zone, que vous connaissez probablement, qui a publié d'ailleurs une présentation faite par Israël, qui montre exactement ce qu'il faut dire, mais vraiment les mots qu'il faut utiliser, les mots qu'on ne peut pas utiliser. Donc on est vraiment sur une chose extrêmement construite qui a pour objectif de justifier ce que l'on fait, d'appuyer finalement l'action militaire. Parce que en réalité, on peut prendre le problème comme on veut. Ce que font les Israéliens est contraire, totalement contraire au droit international. Vous pouvez prendre dans le sens que vous voulez. Défense, pas défense, attaque, pas attaque, etc. Dans tous les cas de figure, on est dans une pratique militaire qui va à l'encontre du droit international humanitaire. C'est-à-dire ce qu'on appelle le droit de la guerre, ce qu'on appelait le droit de la guerre avant. Et qui même là, d'ailleurs, même là va au-delà parce qu'elle est même à l'encontre des doctrines militaires. Vous voyez, quand j'étais à l'OTAN, Comme j'avais travaillé auparavant comme chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix, on m'a demandé de travailler sur la directive tactique numéro 9, si mémoire est bonne, qui avait été mise en Afghanistan, qui était de faire en sorte, c'était le commandant en chef, le général, le nom m'échappe, toujours est-il qu'il a fait une directive demandant aux troupes au sol d'éviter de frapper la population civile. Mmh. Et ceci pour une raison pas simplement humanitaire, mais pour une raison simplement militaire. Parce que plus vous tuez de civils, plus vous créez un antagoniste. Quand vous êtes dans une situation de contre-insurrection, le but, c'est d'isoler les combattants et de combattre les combattants. Mais si, en plus de ça, vous vous aliénez la population civile, donc vous faites en sorte, vous savez, Mao Tse-tung avait dit que le guerriero, c'était, il devait être comme un poisson dans l'eau. Dans la population civile. Donc, une stratégie de contre-insurrection, et j'explique d'ailleurs dans le livre, il y a tout un chapitre qui reprend d'ailleurs l'expression de Mao, et qui, à partir de cette expression, décrit un certain nombre de stratégies possibles, qu'on aurait pu utiliser en Palestine ou ailleurs d'ailleurs, pour, séparer le poisson de l'eau. En quelque sorte, si je peux simplifier ça. Et il y a des tas de manières d'y arriver.
Mais c'est un enjeu justement pour les Israéliens sur la question du ciblage des populations civiles ou enfin de faire l'effort de ne pas les cibler et de ce que ces populations ne soient pas des dommages collatéraux. La réponse des Israéliens, quand on parle de droit international et de ces conventions de ce qui est accepté que l'on puisse faire ou pas, disent le Hamas est responsable. C'est-à-dire qu'il crée les conditions où il se cache derrière les populations civiles, font en sorte que les populations civiles... Alors, je vous vois grimacer, oui, mais oui. Laissez-moi aller au bout, puisque nous l'entendons beaucoup et que le Hamas, de façon odieuse, prend en otage sa propre population et s'en sert comme d'un bouclier entre ses guerriers et les soldats israéliens.
Non. Alors, votre formulation est déjà un peu biaisée. Parce que une résistance, par définition, la résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, moi j'ai un oncle qui a fait partie de la résistance.
Je reprenais le narratif pour que vous puissiez peut-être
d'accord.
le contrer.
Mais il est biaisé et il induit en erreur. Une résistance, par nécessairement, c'est une population qui résiste. Donc, inévitablement, vous avez une imbrication entre les combattants et la population, puisque les combattants sont issus de la population. N'est-ce pas, il n'y a pas une armée. S'il y avait une armée palestinienne distincte, ce serait comme un pays et une armée, et on pourrait distinguer. Mais la résistance est une chose différente.
Mais il y a une armée quand même du Hamas, ou en fait des troupes très organisées que vous décrivez dans
oui,
le menu détail.
Comme vous aviez l'armée républicaine irlandaise, ou comme vous avez d'autres armées qui sont des armées de résistance. Et là, il est important de souligner aussi que la résistance palestinienne, elle a sa légitimité donnée par la résolution 45, 130 ou 130-45 maintenant,
de 1990.
Et au 1990, qui exprime très clairement que les Palestiniens ont le droit à la résistance et même à la résistance par tous les moyens, y compris la force armée. Donc on est bien dans une structure de résistance. Et on est bien, à partir du moment où il y a une occupation et une résistance, il y a nécessairement cette imbrication. Maintenant, il faut bien être prudent sur ce qu'on dit après. Parce que si le Hamas utiliser la population civile, alors ça voudrait dire qu'il se mettrait les civils entre eux et les Israéliens, n'est-ce pas? J'ai essayé de le montrer avec l'exemple des bombes. Si vous avez un objectif, par exemple, les Israéliens ont dit le Hamas a des positions qui sont autour, ou pas très éloignées, je devrais plutôt dire comme ça, des hôpitaux. Alors, quand on connaît le degré de précision qu'on peut avoir avec une bombe guidée, par exemple, la précision d'une bombe guidée, pour donner cet exemple, je vais plus dans les détails évidemment dans mon livre, elle est d'ordre de 4 mètres, 3-4 mètres.
Donc très précis.
C'est très précis. Et d'ailleurs, quand les Israéliens ont voulu toucher M. Al-Arouri à Beyrouth, ils ont employé une bombe qui a touché exactement son appartement. Donc, on arrive à viser une personne ou un chef du Hamas directement avec une bombe, si on veut. Si les Palestiniens utilisaient la population comme bouclier humain, ils auraient tout le monde à l'intérieur d'un rayon de 4 mètres, puisque c'est le degré de précision des bombes. Je simplifie le propos.
Non, mais c'est ça.
Mm-hmm. C'est parce que c'est ça le principe. Vous comprenez, si vous prenez un otage, même prenez l'exemple du Far West, du gars qui prend la jeune fille en otage avec le pistolet. Il prend l'otage de telle sorte que même un tireur en face de lui ne puisse pas distinguer entre lui et la femme. Si la femme en otage était à 3 mètres, ce serait plus un bouclier humain. Même s'il disait « je vais la tuer », mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est plus dans la même situation. Et c'est la même chose ici. Quand vous utilisez une bombe dont l'effet est à un rayon de 400 mètres, ça veut dire quoi mettre la population en otage? De toute façon, dans une zone aussi densément peuplée, vous aurez toujours de la population autour de vous. Le tout, c'est que quand vous placez une position, par exemple une position de tir de roquette ou que sais-je, ce serait d'utiliser l'utiliser un bouclier humain, ce serait de mettre cette position sur le toit d'un hôpital ou bien vraiment contre l'hôpital. Mais si vous le mettez à plusieurs dizaines de mètres de telle sorte qu'on puisse toucher cette position sans toucher l'hôpital, Si les positions du Hamas étaient visées par des bombes précises, les Israéliens pourraient, s'ils ont identifié cette position, eh bien, ils pourraient les toucher. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils utilisent pour toucher, et d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Dans mes ouvrages précédents, celui-ci aussi, mais j'ai pas tout pu reprendre, mais quand ils ont voulu abattre des gens du Hamas, au lieu d'envoyer un commando qui va lui mettre une balle dans la tête. Non, on utilise une bombe d'une tonne ou de 500 kilos pour détruire la maison du bonhomme et évidemment, on détruit les maisons d'à côté. Donc, vous ne pouvez plus, dans ces situations, invoquer le bouclier humain.
Mais inversement, puis je ne veux pas non plus qu'on s'enferme dans ces considérations parce qu'il y a beaucoup de territoires à couvrir. Inversement, vous dites, quand les Palestiniens utilisent leurs roquettes ou leurs ballons incendiaires, il faut voir un acte de résistance et pas nécessairement une volonté de tuer. Ça me semble spécieux comme argument parce que si on envoie une roquette sur une ville en Israël, ben, il y a de fortes chances qu'elle puisse tuer aussi.
Oui. Non, je ne vais pas vous dire qu'ils le font. Ils n'envoient pas à but humanitaire. Mais la raison pour laquelle ils envoient les roquettes, ce n'est pas pour tuer. La raison, c'est pour montrer qu'ils résistent et que les Israéliens ne parviendront pas à leur faire baisser la tête. C'est la notion de djihad, en réalité. On a en Europe cette conception du djihad de guerre sainte. Guerre sainte, un terme qui, en réalité, est chrétien à la base. Le djihad n'est pas ça. Le djihad, c'est le fait de montrer qu'on ne baissera pas la tête. C'est un peu l'idée d'avoir le dernier mot, si vous voulez. C'est un peu ça. C'est ça qui importe. Qui importe plus que ce que vous faites. La notion de victoire pour un combattant islamiste, ou islamique même, pourrait-on dire, mais en l'occurrence plutôt islamiste, la notion de victoire, c'est pas une victoire sur l'autre, c'est une victoire sur soi-même. C'est l'idée que le pire qui puisse se passer, d'ailleurs je cite d'ailleurs même des gens de l'État islamique qui l'ont dit, le pire que vous puissiez avoir dans une guerre, c'est le fait de renoncer à vous défendre. C'est ça, et c'est pour ça que nous avons beaucoup de peine, nous, à comprendre ça, parce que nous, et je suis militaire, vous l'avez dit, j'ai jamais été chef d'état-major, mais je suis officier d'état-major général, ce qui est un tout petit peu différent, mais bref, c'est un détail. Ce que je veux dire, c'est que dans nos écoles militaires, on apprend à détruire l'adversaire. On apprend à détruire, c'est ça, la victoire, dans la conception occidentale, elle est obtenue par la destruction de l'adversaire. C'est ça l'objectif. Pour un musulman, comme, vous comprenez, si vous n'avez pas la capacité de détruire l'adversaire, alors vous ne aurez jamais de victoire, puisque vous ne pouvez jamais le détruire. Donc l'idée de la victoire, c'est pas de détruire l'adversaire, parce qu'il est souvent trop puissant, trop armé, trop nombreux ou que sais-je, mais et à ce moment-là, vous ne vous battriez pas. Donc l'idée de la victoire, c'est la victoire sur soi-même, la victoire de ne pas renoncer. Djihad vient du mot jihada, qui signifie s'efforcer, résister, pas détruire.
Et d'ailleurs, vous faites bien attention de dire que dans le cas du Hamas, historiquement, il y a très peu de velléité de porter l'action terroriste en dehors du territoire palestinien.
C'est-à-dire il n'y en a même aucune. Le Hamas n'a jamais, ils ont toujours dit, comme doctrine très claire, qu'ils ne cherchaient pas à porter le terrorisme. C'est une guerre de résistance. C'est une guerre de résistance. Alors évidemment, le problème est un peu compliqué parce que vu de l'extérieur, et on a eu des cas d'ailleurs, quand j'ai écrit des encyclopédies du terrorisme, où le Hamas est décrit dedans. Donc c'est pas que il s'est effectivement comporté à certains moments comme un mouvement terroriste. Comme d'ailleurs les résistants français, il faut être très clair. Le terrorisme est une méthode, mm-hmm. c'est pas
pour
une
les doctrine. Allemands, les c'est Français qui étaient dans la résistance, ils faisaient des actions terroristes.
Tout à fait. Et même si aujourd'hui, si on enlevait les étiquettes des uns et des autres, si on observait ce que faisaient les résistants, on jugerait ça comme terroriste. Mm-hmm. Voilà, ça, il faut être clair. Mais bref, c'est l'histoire. Elle a été interprétée, écrite comme ça, et on va pas la changer. Comme je dis, moi, j'ai moi-même eu de la famille côté français. Qui ont fait partie de la résistance, donc on va pas les négrer, c'était normal à mon avis qu'ils réagissent comme ça. Donc le terrorisme c'est une chose qui a ses définitions et on peut le voir à différents. Mais les gens du Hamas n'ont jamais eu l'intention de sortir de ce contexte de résistance. Et pourquoi ils ne l'ont pas voulu? Pour des raisons très très simples, c'est que vous rappelez sans doute que le mouvement palestinien, la résistance palestinienne a commencé sous une obédience un peu marxiste. On était dans la lutte entre le monde progressiste et l'impérialisme, en réalité. Et la résistance palestinienne, comme d'autres mouvements de résistance, comme la résistance en Irlande, comme la résistance dans beaucoup, s'inscrivait dans cette lutte contre l'impérialisme. Et donc, on avait, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de collaborations, hein, les Irlandais ont été formés avec les Palestiniens en Libye, ont été formés en partie, d'ailleurs, dans les camps en Tchécoslovaquie à l'époque, etc. Donc il y avait vraiment
une internationale.
D'ailleurs, je mentionne d'ailleurs la conférence tricontinentale de La Havane de 1966 où on a eu tout le gratin de la résistance et du terrorisme international qui était réuni parce qu'on était dans un contexte de lutte internationale contre l'impérialisme et les pays communistes, le pacte de Varsovie a instrumentalisé toutes ces luttes de résistance qui étaient pour certaines légitimes à la base, mais qui ont été instrumentalisées pour, en fait, on a transformé le monde en un grand échiquier, et puis l'Est et l'Ouest déplaçaient ses pions, comme d'ailleurs les Américains l'ont fait en soutenant Savimbi en Angola, etc. Donc, on était, le monde est un immense échiquier, chacun jouait ses pions, et puis les règles du jeu, si vous voulez, du côté progressiste, communiste, etc., c'était les mouvements de résistance, dont la résistance palestinienne. C'est pour ça que vous avez eu des Palestiniens qui ont fait des attentats à Paris et dans d'autres pays.
Mais il ne faut pas confondre toutes les résistances palestiniennes, c'est surtout ce que vous dites, parce qu'il y a des choix qui ont été faits éventuellement de ne plus agir à l'étranger compte tenu de ce que ça endommageait la réputation.
Alors justement, ça c'est Yasser Arafat qui l'a compris lui-même, puisqu'en 1974, il a été invité à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc c'est un peu la consécration d'une certaine manière, et là il réalise que le terrorisme international lui porte préjudice plus qu'autre chose. Donc il ne faut pas s'aliéner la communauté internationale et donc le terrorisme doit être concentré sur la phase de résistance, si vous voulez, à l'occupation israélienne. Et à partir de ce moment-là, vous avez d'ailleurs tous les mouvements palestiniens. En 1974, le Hamas n'existe pas encore. Il existe des mouvements d'obédience plutôt nationaliste islamique, mais on est au balbutiement à ce moment-là. Toujours est-il que la résistance palestinienne a réduit son champ d'action, si vous voulez, vraiment aux zones occupées par Israël. Et le Hamas en fera un élément de doctrine pour éviter justement de s'aliéner le soutien des autres pays arabes et le soutien du monde en général.
Vous soulignez justement sur ce qui anime le Hamas quelque chose qui est peut-être mal compris, sciemment ou non, parce que notre perception généralisée, c'est que le Hamas ne reconnaît pas à Israël le droit d'exister et que tant et aussi longtemps qu'on est dans une pareille posture intransigeante. Il est impossible donc de négocier quelque entente que ce soit. Or, vous suggérez, comme Israël n'a jamais officiellement confirmé ce qu'étaient ses frontières, le Hamas ne veut pas et ne peut pas reconnaître un État dont les frontières, pour eux, ne sont pas connues.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a plusieurs choses dans votre question. Tout d'abord...
Mais est-ce qu'on n'est pas quand même au cœur du contentieux beaucoup?
On est beaucoup, non, oui, tout à fait au cœur, mais c'est un ensemble. Tout d'abord, dans le narratif occidental, on vous dit que le Hamas veut pas reconnaître Israël, veut détruire Israël, etc. Alors déjà, il faut bien se mettre d'accord là-dessus. Tout ce que nous disent les médias traditionnels, mais vraiment tout ça, 100% pratiquement, ils vous parlent de la charte du Hamas de 1988.
Et non pas celle de 2017.
Et non pas celle de 2017, qui est beaucoup plus politique. Et que tout le monde, parce que quand cette charte a été publiée en mai 2017, tout le monde a reconnu que le Hamas avait rompu avec l'idéologie, totalement rompu avec l'idéologie des frères musulmans, qu'on reconnaissait l'existence d'Israël, etc., etc.
Et quand vous dites tout le monde, ce sont les mêmes qui...
Même les Occidentaux. Même ceux qui aujourd'hui vous disent que... Oui, c'est exactement...
Parce que vous me suivez, vous dites aujourd'hui...
Je parle des analystes, je parle des gens sérieux, je parle pas des gens qui sont restés... Il y a toujours des gens qui sont restés sur des narratifs, parce que le but, c'est d'avoir un méchant qui est très méchant. N'est-ce pas? Mais la réalité est que le Hamas a modifié sa charte, n'a pas simplement modifié, il l'a remplacée, à vrai dire, en 2017, par une autre charte qui laisse la porte ouverte à la reconnaissance d'Israël. Mais, et là viennent les questions de fond que vous évoquez, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a le fait que l'existence même d'Israël est basée sur l'origine de cette existence, est basée sur la résolution 181 des Nations Unies de 1947, qui d'ailleurs ne créait pas un État juif seulement, mais trois États, pourrait-on dire, parce qu'il y a Jérusalem qui est sous mandat international, un État juif et un État arabe. On parle pas d'Israélien, etc., puisque Israël n'existait pas. Donc, un État juif, un État arabe, on parlait pas non plus de Palestiniens, notez bien, on parle d'un État arabe, un État juif et Jérusalem. Donc, trois entités. Mais, l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas le pouvoir de donner du territoire à quelqu'un. N'est-ce pas? On vous voit souvent cette carte où on voit la répartition des terres. Ça n'était pas que l'Assemblée générale donnait cette terre aux uns et aux autres. Elle n'a pas le pouvoir de le faire. Ne serait-ce déjà qu'à cause de sa charte qui donne la prééminence de l'autodétermination des peuples. En revanche, c'était une proposition qui devait servir de base à des consultations populaires. Il devait y avoir au moins deux consultations populaires. La première devait aboutir à l'abolition de l'État de Palestine. Parce qu'en réalité, la Palestine mandataire, c'est pas simplement une figure de style. Mm-hmm. Entre 1921 et 1948, il y avait un État de Palestine. Golda Meir dit même à un moment, je suis palestinienne.
Et il y avait même une délégation palestinienne aux Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne.
Voilà, tout à fait. Donc il y avait effectivement, il y a un comité olympique palestinien, etc. Donc on est sur, il y a vraiment un État palestinien qui existe. Alors il est sous tutelle britannique. Mais il existe quand même, il y a un passeport palestinien, etc. Et en 1947, il y avait deux visions, si vous voulez, qui s'opposaient. Il y avait les Juifs qui voulaient leur État et les Arabes qui auraient voulu continuer l'État de Palestine en accommodant les deux communautés à l'intérieur de cet État. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, il aurait fallu avoir, donc, abolir l'État de Palestine, ce qui n'a jamais été fait. Et deuxièmement, avoir un référendum ou des référendums sur comment se répartir les terres. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte la proposition des Nations Unies ou pas, en substance. Donc, ni l'une ni l'autre n'a été faite, et pour une raison très simple, ça n'a pas été fait. Parce qu'à l'époque, il y avait 30% de la population qui était juive, enfin avec l'immigration, donc on parle de 1947, hein, 1947-48, donc on a toute cette immigration, cette émigration venant d'Europe, ou immigration venant d'Europe, c'est encore la perspective.
Et amorcée depuis le début du siècle.
Oui, amorcé, mais qui a été accéléré, parce que je pense pas que les Juifs, à vrai dire, étaient très attirés par la Palestine. D'ailleurs, beaucoup d'historiens constatent que les Juifs n'étaient pas vraiment intéressés par ça. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que les politiques antisémites qui ont été appliquées en Europe, naturellement, à partir de 1933 en Allemagne, mais dans d'autres pays d'Europe aussi, des pays qui sont accoquinés d'une manière ou d'une autre avec les Allemands et qui ont contribuer à ça. La Suisse en fait partie, par exemple, pour des raisons politiques. On a, sans vouloir directement condamner la population juive, parce qu'on n'a jamais eu de camp de concentration, on s'est un peu aligné quand même sur la politique allemande, parce que c'était un partenaire, puis on n'avait pas envie de se froisser avec eux. Donc on a un petit peu ce phénomène qui s'est fait dans les années 30. Pendant les années 40, il y a eu évidemment la solution finale.
Est-ce que je peux me permettre, parce que vous soulignez un chapitre qui est beaucoup occulté, qui est celui de la collaboration au début des années 30 entre les autorités nazies et de grandes associations juives qui travaillent...
Pas juives, sionistes. C'est très différent.
Oui, effectivement.
Les Juifs étaient... Les Juifs n'ont jamais perçu le nazisme comme étant amical. Mais, et les sionistes non plus, d'ailleurs.
Mais on profitait des circonstances.
Mais on a vu que... N'est-ce pas? Il y avait une convergence d'intérêts. Les Allemands voulaient plus de Juifs en Allemagne et les sionistes voulaient pousser les Juifs à aller
en Palestine.
Du coup, il y a une convergence d'intérêts qui a fait qu'on va pas rentrer dans tous les détails, mais j'en parle, c'est intéressant. Il y a eu ce fameux accord de transfert, qui est un accord qui a permis une coordination au niveau du financement du départ des Juifs d'Allemagne vers la Palestine. On ne va pas entrer dans tous les détails ici parce que ça nous mènerait trop loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, à partir de ces années-là, et après, pendant les années 40, et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Juifs qui, pour des raisons d'ailleurs tout à fait incompréhensibles, se sont dit, l'Europe, c'est pas un pays, c'est pas un endroit pour nous, donc on préfère aller dans un endroit où on a nos terres, nos règles, etc., etc. Donc, en 1948, vous avez, au moment de l'adoption de la résolution 180 de l'Assemblée générale des Nations Unies, vous avez grosso modo 30% de la population qui est juive et 66% de la population qui est, enfin un tiers, deux tiers grosso modo, hein, deux tiers de la population est arabe. Donc s'il y avait eu un référendum, il est clair que c'est probablement le point de vue arabe qui aurait prévalu. Et les juifs ont très bien compris ça. Et comme ils avaient dans leur rang beaucoup d'anciens militaires qui avaient été dans l'armée britannique, qui avaient été engagés aux côtés des alliés, eh bien, ils en ont tout simplement profité pour prendre cette terre, finalement, sans aucun processus consultation politique. C'est la raison pour laquelle, c'est pas parce que les Arabes étaient pas d'accord avec le projet des Nations Unies, c'est parce que les milices juives sont emparées des terres sans faire les négociations qui sont prévues par la résolution des Nations Unies. Mais là, on a bousculé totalement. C'est peut-être pas pour rien si aujourd'hui, d'ailleurs, les différents gouvernements israéliens ne se réclament pas de la résolution 181. Ils préfèrent vous dire que la terre était déjà à eux il y a 2000 ans.
Oui, on se réfère là à la Bible.
On se réfère plutôt à la Bible qu'à la résolution 181, parce que la résolution 181 n'a jamais été respectée par Israël. Donc, si vous voulez, il y a un manque de légitimité déjà à la base. Parce que les Arabes savent que cette résolution n'a pas été respectée, les répartitions des terres ne sont pas faites comme elles avaient été prévues d'air, et on n'a pas eu les consultations populaires et le droit à l'autodétermination prévus par les Nations Unies et qui sont répétés dans la résolution 181 n'ont pas été respectés. Donc c'est la première raison pour laquelle reconnaître l'État d'Israël, c'est admettre qu'il y a eu une faute d'origine.
Un coup de force aussi. Ouais. C'est de reconnaître le coup de force.
C'est reconnaître le coup de force, exactement. Et puis, il y a cette deuxième chose, parce que, et on le sait dans les mémoires de Ben-Gourion, que la veille de la proclamation d'indépendance, le 14 mai 1948, la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'on définit nos frontières. Et Ben-Gourion a dit, on ne définit pas nos frontières parce que on veut laisser ça, je pense, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre aussi que pour les Israéliens, pour ces Israéliens-là, ou les Juifs qui ont milité ou combattu pour avoir leur État, il y avait une idée qui allait un peu au-delà. C'est-à-dire que la Palestine mandataire, elle comprenait pas seulement ce qu'il y a entre la Méditerranée et le Jourdain aujourd'hui, ce qui grosso modo représente Israël plus les territoires occupés, mais qu'on prenait également la Transjordanie, aujourd'hui la Jordanie si vous voulez. Et là, les Britanniques, dans les années 20, début des années 20, ont donné cette Transjordanie aux Hachémites. Et, mais les Israéliens, et surtout les mouvements, on parle là de ceux qui ont combattu, donc on est avec des gens qui sont quand même un peu radicaux dans l'esprit, ils considèrent que ces terres appartiennent à Israël également.
Alors cette question, par exemple, du pays qui irait de la Méditerranée au Jourdain. Aujourd'hui, quand ce sont des Palestiniens qui réclament ce droit à exister de la Méditerranée au Jourdain, c'est associé à un discours génocidaire qui nie Israël. Je pense que même sur X, à un moment donné, je parle de la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, on a interdit ce genre d'appel aux armes. Or, vous dites, il faut lire entre les lignes pour comprendre ce que réclament les gens du Hamas.
Oui, parce que...
Mais apparemment, quand on entend ce genre de déclaration, je me fais l'avocat du diable.
Ah non, mais
il n'y a pas de nuance.
Il faut revenir de nouveau à la base. Je vous ai dit tout à l'heure que lors de la création de l'État d'Israël, avec la résolution 181, il y avait deux optiques qui s'étaient dégagées. Celle des Juifs qui voulaient leur État à l'exclusion de la population arabe. Et puis les Arabes qui auraient préféré un État de la Méditerranée au Jourdain dans lequel coexistaient les deux populations. C'était ça la vision, c'est-à-dire conserver...
Sachant aussi qu'ils étaient numériquement à cette époque favorisés.
Non, d'accord, on est d'accord avec ça. Chacun y voyait évidemment son avantage, bien entendu, ça c'est évident. Mais c'était l'optique, si vous voulez. Il y avait cette idée qu'on pouvait coexister sur la même surface de terre, alors que la vision juive à l'époque était vraiment de distinguer entre les terres arabes et les terres juives. Voilà. Alors, quant aujourd'hui, les Palestiniens reviennent à cette idée, ils reviennent à l'idée qui était la Palestine d'origine, si vous voulez. C'est ça dans leur esprit. Parce que, d'ailleurs, quand vous lisez la charte du Hamas, ils vous disent pas qu'ils veulent un terre où il y a plus de juifs dedans. C'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils disent au contraire qu'ils sont tout à fait disposés à vivre avec les juifs sur cette terre.
Le au contraire me surprend parce que j'ai jamais l'impression que le Hamas dit au contraire, nous aspirons à vivre.
Non, ils disent pas au contraire, mais quand vous lisez, c'est pas du tout ça. Ils considèrent bien, il faut bien comprendre les choses. C'est des gens qui se battent contre une occupation. Donc cette occupation, quand vous battez contre une occupation, c'est que vous considérez, à tort ou à raison, qu'elle est illégitime. Donc on est dans cette logique-là. Ça, c'est évident. Mais, la question est que c'est quand il parle de la Palestine, il n'y voit pas un État qui exclurait toute autre religion. D'ailleurs, il mentionne ni chrétien, ni juif. Donc, c'est pas un État qui est exclusif. Donc, admettons, par exemple, que le Hamas parvienne à faire exactement ce qu'il a en tête, c'est-à-dire un État de la Méditerranée au Jourdain. Ça veut pas dire que toutes les autres religions seront éjectées, et seront renvoyées à la mer. C'est pas du tout ça. Ils admettent l'idée de vivre ensemble. Ça, c'est tout à fait clair.
Est-ce qu'ils admettent l'idée qu'il puisse y avoir deux États?
Ils admettent tout à fait ça, puisque on a, et je le mentionne d'ailleurs dans mon livre, depuis, vous comprenez, il y a l'idée de base, et c'est l'idée, le point de départ, si vous voulez, de la réflexion, c'est bien celui-là, c'est-à-dire revenir à cette idée de Palestine, dans lequel on vit, qui est un territoire palestinien, dans lequel vivent des juifs. Ça c'est l'idée de base. Mais, quand on regarde les déclarations qui ont été faites par les différents dirigeants du Hamas, et c'est cohérent, hein, depuis 1987 pratiquement, mais surtout depuis le début fin des années 90, on a un discours très cohérent qui dit on accepterait une répartition des terres selon les frontières de 1949, c'est-à-dire du 4 juin 1967, c'est-à-dire les frontières d'Israël
avant la guerre des Six Jours.
Juste avant la guerre des Six Jours. Voilà, exactement.
J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On est loin du compte pour l'instant. parce que le premier ministre israélien dit sans l'ombre d'un doute que pour lui, la solution à deux États est inopérante et que la démonstration de ce qu'elle est inopérante, c'est ce qui s'est passé en octobre dernier. Est-ce que le Hamas, en déclenchant son opération Al-Aqsa, a stratégiquement, parce que c'est un peu ce que vous dites dans le livre, gagné cette guerre, même si tactiquement le coût est très élevé?
Alors, n'est-ce pas, les Palestiniens, et d'ailleurs quand on lit la littérature palestinienne, on s'aperçoit que ce sont pas des gens qui se font des illusions. Ce sont des gens qui sont extrêmement réalistes, et probablement d'ailleurs presque plus réalistes que le sont les Israéliens. Ils se rendent très très bien compte de la situation, ils se rendent très très bien compte du rapport de force, ils se rendent très très bien compte, pas seulement du rapport de force sur le terrain, mais du rapport de force régional et politique, qui fait qu'ils n'ont pas le soutien, et il n'y a pas les pressions, et d'ailleurs ils le constatent en plus journellement aujourd'hui, qu'il n'y a pas les pressions nécessaires pour qu'une solution à deux États telle qu'elle avait été imaginée en 1947, mais plus tard par les accords d'Oslo, etc., que personne n'est disposé à s'impliquer là-dedans, pas même les pays arabes d'ailleurs, parce que la Jordanie ou l'Égypte, la Syrie a d'autres problèmes, et puis le Liban est trop faible pour le faire, mais disons les deux grandes puissances qui jouxtent Israël, qui seraient, enfin grandes puissances, toute proportion gardée, la Jordanie et l'Égypte ne sont jamais vraiment inquiétées de ça, et puis l'Arabie saoudite, pour elle, c'est un problème qui est un peu éloigné quand même, à tort ou à raison. Et donc, les Palestiniens sont très conscients de cette chose-là. Mais d'un autre côté, il voit que la pression qui s'exerce contre la population palestinienne s'accentue au fil des années, n'est-ce pas? C'est pas qu'on est dans un statu quo. Comprenez, l'occupation, et notamment en Cisjordanie, l'occupation croissante et qui a encore augmenté avec le nouveau gouvernement israélien qui est extrêmement à droite, extrêmement religieux, qui est dans le sionisme religieux littéralement. Donc c'est presque le plus radical. Le sionisme, c'est.
Mais c'est de là que je suis parti.
Voilà, c'est ça. Le sionisme, et c'est pas le judaïsme. Le judaïsme est une religion. Comme d'autres religions, sans problème. Le sionisme est une doctrine politique. Et c'est une doctrine nationaliste qui utilise comme ciment, si vous voulez, la religion. Mais là aussi, les experts vous diront, et c'est pour ça que je le mentionne aussi, parce qu'il y a des sionistes chrétiens aussi. Hein, Joe Biden se définit comme sioniste chrétien, par exemple. Comme Steve Bannon. Mmh. Le conseiller de Donald Trump, très controversé d'ailleurs. Donc on voit que le sionisme est une notion qui est un petit peu plus large, mais qui part toujours d'une idée politique, n'est-ce pas? Les sionistes chrétiens, ils associent ça, c'est quelque chose qui est très lié au mouvement évangéliste, etc. Quand on parle du sionisme juifs, chrétiens, donc par exemple les membres du gouvernement de Netanyahou, on est évidemment sur du judaïsme très orthodoxe, etc. Bon, de nouveau, je suis pas théologien, je vais pas entrer là. Donc on est sur une doctrine politique. Ça c'est important. Et cette doctrine politique, elle vise à créer un État d'Israël. D'ailleurs, même moi, je me rappelle, j'habitais à New York je travaillais à l'ONU, comme vous le savez, et devant le secrétariat de l'ONU, là, le grand bâtiment à UN Plaza, vous avez tous les matins, mais vraiment, tous les jours de l'année, vous avez des Juifs orthodoxes qui manifestent contre Israël. Alors ils ont, c'est vraiment les Juifs orthodoxes, donc ils ont ces habits traditionnels de la communauté juive orthodoxe, et ils sont là pratiquement tous les jours de l'année à manifester contre Israël, avec un signe, enfin le drapeau israélien biffé d'une croix rouge, etc. Parce que ils ont une autre interprétation de la Bible, et puis pour eux, la Bible dit autre chose, ou la Torah, plus exactement, on devrait dire, dit quelque chose de différent. Alors, je ne vais pas entrer dans la discussion théologique ici, mais ce que je veux dire, c'est que même les sionistes, c'est pour indiquer que quand on parle de sionisme, on parle vraiment d'une doctrine politique et pas nécessairement d'une doctrine religieuse, même s'il y a des sionistes religieux.
Mais là où nous étions tout à l'heure, c'est à cette idée que peut-être qu'on est, après quelques mois de guerre, dans une situation où, objectivement, la cause palestinienne est peut-être pas beaucoup plus avancé, en tout cas certainement avec un interlocuteur qui officiellement ne se gêne plus pour dire que la solution à deux États est inopérante. Et je reviens au sous-titre de votre livre quand vous dites « c'est la défaite du vainqueur ». Peut-être pouvez-vous ici faire la démonstration. Je vous cite « Israël doit choisir entre une victoire stratégique sans détruire le Hamas ou une victoire tactique contre le Hamas en perdant le soutien international ».
Oui, c'est en gros, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que
l'objectif... C'est ce qui s'est passé?
C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Probablement, en grande partie, ce qui s'est passé. Parce que quand on voit aujourd'hui, notamment dans des pays, notamment les États-Unis, qui est un pays qui est notoirement pro-israélien, toute tendance confondue. Donc, être en faveur d'Israël, c'est vraiment une question qui est bipartisane, comme disent les Américains.
On est d'accord.
Voilà. Et donc, même là, on voit qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de repli par rapport à ce côté pro-israélien. Et on voit quand même, et notamment maintenant plusieurs sondages ont montré que les démocrates, qui sont un peu les champions de la lutte, du pro-Israël, et qui ont un électorat, on disait en tout cas à New York, grande partie de l'électorat juif, est démocrate, ou quand partie de l'électorat démocrate est juif, pour prendre dans les deux sens. Et aujourd'hui, on voit une désaffection, là, très nettement.
À la frange, c'est très marqué. C'est clair qu'il y a un électorat qui s'est mobilisé autour de la question de la Palestine,
très, très
ce qui est très nouveau.
Non, c'est pas tout à fait nouveau, parce que je me rappelle, il y a 25 ans, lorsque j'ai fait deux séjours, j'ai habité deux fois deux ans à New York, une fois à la fin des années 90 et une fois à la fin des années 2010. Et dans les deux cas, on s'apercevait, et le New York Times a fait des études intéressantes sur cette question, qu'il y avait une désaffection progressive des Juifs américains pour Israël. Et pas simplement parce qu'ils oubliaient Israël, mais parce qu'ils disaient Israël n'est plus en synchrone avec nos valeurs, ou les valeurs qu'on a aux États-Unis. Et donc, ça montre qu'il y a une désaffection qui est quand même un peu plus vrai, qui s'est accentué avec ça. Parce que, évidemment, la manière dont Israël a traité la population de Gaza avec ses bombardements indiscriminés, etc., c'est quelque chose qui, d'ailleurs, à juste titre, révolte la population occidentale et la population américaine en grande partie. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui ont fait vraiment un recul. Donc, il y a effectivement une désaffection. Il y a le fait qu'on reconnaisse aussi que Israël, le fait que l'Afrique du Sud soit venue devant la Cour internationale de justice avec cette idée de génocide, eh bien, rend plus visible, ou plutôt éclaire ce retrait, le retrait dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une lumière un peu particulière. Parce que, du coup, les gens se disent, mais attention, si Israël est un État génocidaire, ça veut dire que je soutiens un génocide.
Ce que la Cour n'a pas dit.
N'a pas dit. Elle a dit plausible, et je le précise d'ailleurs dans le livre. Là, je reste là très très. Il faut être très clair sur les termes, il faut être précis aussi, parce que de nouveau, le but du livre, c'est j'ai écrit ce livre non pas comme un partisan des uns et des autres, mais comme un agent de renseignement, si vous voulez. C'est-à-dire que
c'est une fiche technique.
C'est un peu une fiche technique à bien des égards.
Mais j'ai eu quand même par moments cette impression qu'Israël n'avait pas beaucoup votre faveur, peut-être devant l'évidence.
Non, pour des raisons, d'ailleurs, mais pour des raisons presque militaires, en quelque sorte. D'ailleurs, je le décris très très bien. Je pense si Israël avait vraiment voulu, et c'était le but d'ailleurs de mon premier ouvrage il y a 20 ans, sur la même thématique, si vous voulez. À l'époque, on parlait plus de Cisjordanie que de Gaza. Cette fois-ci, on est beaucoup plus sur Gaza. Mais c'est la même thématique. Et je faisais les mêmes critiques. Livre d'il y a 20 ans, d'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments du livre que j'ai repris, parce que on voit les erreurs d'Israël ont été simplement amplifiées depuis. Elles ont été simplement amplifiées.
Elles sont, ces erreurs?
Comme je dis souvent, ils ne chassent pas le terrorisme, ils chassent des terroristes. Et en chassant des terroristes, ils créent du terrorisme.
C'est d'ailleurs ce que la CIA et les grandes agences de renseignement, aujourd'hui, au moment où on se parle, on est le 12 mars, disent. Nous sommes en train de nourrir plus que jamais des générations de terroristes.
C'est exactement ce
qui frapperont
fait.
Israël, mais aussi les Américains s'en
méfient,
qui frapperont
ça.
Les Américains.
C'est pas le même, parce que le terrorisme palestinien est vraiment sui generis. Donc, ils frapperont pas les États-Unis.
Non, mais ce que les Américains disent aujourd'hui, c'est que l'appui des États-Unis à Israël risque d'engendrer des dommages collatéraux pour les Américains.
Bien entendu. Notez que cette réflexion, on pouvait l'avoir en 2003 déjà, après l'intervention en Irak, et à la veille, mon livre en 2003 est sorti le jour de l'intervention américaine en Irak. Donc je ne savais pas encore qu'ils allaient attaquer. Mais le fait est que depuis 2003, les Occidentaux ont fait exactement comme Israël en réalité. D'ailleurs, Israël, quand on leur dit « vous ne devez pas bombarder la population civile », les Israéliens vous disent « très justement, mais on fait comme vous avez fait en Irak et en Afghanistan ». Et c'est vrai, on a fait ça. Et c'est-à-dire, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que à l'OTAN, j'ai eu aussi cette tâche d'essayer de voir comment on pouvait réduire l'animosité, enfin, comment on pouvait éviter de s'aliéner une population si on voulait combattre des combattants, talibans ou autres, mais le faire en épargnant la population civile parce qu'on se met dans une posture stratégique défavorable si en plus on s'aliène la population. Et c'est ce qu'on fait les Israéliens systématiques. Ce qui d'ailleurs, cette stratégie-là, cette mauvaise stratégie, est aujourd'hui utilisée pour justifier ou documenter l'idée de génocide. C'est ça qui est. Alors là.
Donc ça se retournerait.
Se retourne totalement contre les Israéliens. Et je l'avais dit déjà en 2003. J'avais dit, il y a deux possibilités. Soit les Israéliens n'ont strictement rien compris, soit ils sont génocidaires.
Mais est-ce que
je vais pas l'utiliser ce mot-là, mais
est-ce que le Hamas a bien compris? Parce que cette idée de faire la démonstration devant tous qu'ils étaient capables de résistance, et on reviendra sur ce que vous dites de l'attaque du mois d'octobre, mais cette démonstration qu'ils font à tous qu'ils sont toujours vigilants et prêts à se défendre coûte très 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 cher aux Palestiniens.
Alors elle a coûté très cher.
C'est un tribut très lourd à payer.
Oui. Alors ça c'est vrai, mais vous voyez, il y a un moment, je pense, et je pense que c'est d'ailleurs vous savez, il y a eu ces mêmes calculs qui ont été faits durant la résistance, parce que en France, où on acceptait que les Allemands prennent des civils en otage et qu'ils fusillent 10 gens pour un Allemand tué, par exemple, ce genre de choses. Quand j'y acceptais, c'est donc avec des guillemets, parce que c'est pas qu'on acceptait ça, mais on se rend compte qu'il y a un moment ou conserver sa dignité à un prix, et que, ma foi, le prix peut être élevé, mais qu'il y a un moment, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on est prêt à se laisser faire, à continuer à se laisser faire sans réagir, et puis alors la population civile est épargnée dans le court terme, si vous voulez, mais on n'améliore pas notre solution dans le long terme, ou bien alors on réagit, et puis ben, on prend le coup, mais d'un autre côté, on peut se lever, on a la tête droite.
Et c'est là que vous avez une interprétation de ce qui s'est passé en octobre dernier qui est un peu différente de ce que vous avez appelé tout au long de notre conversation le narratif, où vous dites que c'était une opération militaire qui n'avait pas vocation à tuer des civils.
Tout à fait.
Ah oui. Mais vous comprenez que c'est quasi inaudible, parce que je vous dirais que tous ces jeunes qui fêtaient, par exemple, à ce festival de musique, et dont de nombreuses victimes ont été ensuite comptées, n'étaient pas une cible militaire, ne pouvaient pas être associés à une cible...
N'étaient pas une cible militaire. N'étaient pas. On sait que... Et d'ailleurs, c'est même là, je cite même dans le livre, parce que ce qui est la raison, je vous ai dit que j'écris ce livre un peu comme un agent d'enseignement, parce que, pour moi, l'important... l'idée du livre, c'est pas de défendre une position ou d'une autre, mais c'est de nous apporter des éléments qui nous permettent de juger cette situation avec le plus d'impartialité possible.
C'est possible?
L'impartialité totale est jamais totalement possible, mais on doit pouvoir s'en approcher. Et surtout, on doit pouvoir s'en approcher au niveau des décideurs politiques, parce que on peut pas baser une politique simplement sur l'émotion. Alors, je sais que c'est en France, c'est courant. Il y a une approche très très intuitive, très romanesque de la politique, qui donne d'ailleurs des résultats assez curieux et même très contradictoires. J'ai une perception plus anglo-saxonne quelquefois de la politique, plus pragmatique peut-être, mais où on doit baser la décision. Alors, après, la décision, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, elle peut être ceci, cela, pas de problème, mais les éléments qui nous amènent à cette décision doivent être des éléments qui sont le plus factuels possible. Après, vous prenez les libertés que vous voulez par rapport à ça. Ça, c'est une autre affaire. C'est le décideur.
Mais revenons donc à l'opération militaire.
L'opération militaire, j'ai pris... Et quand vous regardez d'ailleurs les sources, il y a près de 900 sources là-dedans, enfin de référence, vous remarquez que beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias israéliens ne sont jamais arrivées chez nous, justement pour entretenir le narratif. Or,
donc Israël plus critique face à lui-même dans sa presse que nous ne le sommes à l'extérieur d'Israël.
Alors, je dirais que les journalistes israéliens, parce qu'après il faut distinguer entre le narratif officiel, hein, qui est sévèrement contrôlé, puisqu'il y a une censure militaire qui passe en revue à peu près tout ce qui se dit sur cette affaire. Donc il y a un appareil sécuritaire et politique qui contrôle ça, mais quand on regarde le travail journalistique qui est fait, on constate que malgré tout, en dépit de la censure, etc., vous avez des journalistes israéliens qui ont essayé de comprendre ce qui s'est passé, et je pense à juste titre, parce que quand vous avez un problème d'une telle ampleur, eh bien la première chose, si vous voulez le résoudre, c'est de comprendre les tenants et aboutissants, et ça, vous pouvez pas faire l'économie de l'analyse des faits avant. Et d'ailleurs, on constate, on revient à la Rêve Party ou le festival de musique, où la police israélienne a constaté que ce samedi matin, donc le 7 octobre est un samedi, la Rêve Party aurait déjà dû être terminée la veille. C'est parce que, comme ça marchait bien, les organisateurs ont demandé à prolonger la fête, que les combattants du pas seulement du Hamas d'ailleurs, mais il y a toute une série de mouvements palestiniens qui ont contribué à cette opération, mais ils se sont trouvés tout d'un coup confrontés à ces festivaliers dont le festival était adossé à une base militaire. L'objectif, c'est la base militaire qui était derrière, c'est la base militaire de Berry. De Reim, pardon.
Mais ils sont donc un dommage collatéral de cette opération où ils se trouvent malheureusement encore sur place, auquel cas c'est un mauvais prétexte, c'est-à-dire qu'on aurait pu choisir de les épargner et dire on s'attaque qu'à la base.
Mais ils ne se sont pas attaqués aux Palestiniens. Et d'ailleurs, on a même des témoignages qui ont paru dans la presse où on voit les gars du Hamas qui demandent, parce qu'ils sont un peu perdus quand ils arrivent dans cette fête, puis ils demandent aux festivaliens où le chemin de la base. Donc on voit bien que les Palestiniens n'avaient pas pour objectif de...
Mais le résultat net est le même. Et je ne veux pas vous interrompre là-dessus, mais parce qu'il y a des gens qui vont vous écouter, ils vont dire, mais ça ne se peut pas, il y a tellement de victimes.
Oui, il y a tellement de victimes. Mais alors après, il faut aller plus loin dans l'analyse. Il faut comprendre pourquoi il y a eu les victimes. Et il y a plusieurs facteurs qui sont intervenus. D'abord, on est dans une confusion assez importante parce que dans ce secteur-là, il y a d'autres secteurs où c'est allé beaucoup plus facilement, mais ici, les Palestiniens sont trouvés confrontés avec tout d'un coup des gens qui devaient pas être là et qui auraient permis d'aller combattre. D'ailleurs, les Palestiniens sont allés se battre sur la base militaire de Reim après. Et là, d'ailleurs, c'est là où il y a eu presque les combats les plus durs. Et c'est là que vous avez même le commandant de la division de Gaza qui était sous terre, qui a demandé à l'aviation de bombarder même ses propres troupes. N'est-ce pas? Donc on est vraiment, parce que il pensait que la situation était considérablement plus tragique, plus dramatique qu'elle ne l'était en réalité. Et ce que je vous dis là est apparu dans la presse israélienne. Il y a des journalistes, notamment du magazine Idiot Aharonot, qui ont fait toute une série d'articles d'ailleurs sur le déroulement de cette journée du 7 octobre. Donc on en a une image assez précise en Israël. C'est chez nous que ces articles n'ont pas du tout été transmis, ce qui fait que nous, on a toujours l'image d'un Hamas qui attaque des civils, et puis l'image s'arrête là. Après, on a 1400 morts, voilà.
D'ailleurs, il n'y a plus 1400 morts officiellement, c'est un autre chiffre.
On y reviendra. Mais donc, les Palestiniens se sont trouvés confrontés à ces gens-là. Le but des Palestiniens, et on le voit très bien d'ailleurs quand on regarde les opérations qu'ils ont menées, il y avait 25 objectifs militaires qui étaient visés. Celui de la Rêve Party, eh bien, il était adossé à un de ces objectifs militaires. Dans les autres, ce qui s'est passé, et notamment dans la région des kibbutz, par exemple Berry, ce qui s'est passé, c'est que les Palestiniens voulaient vraiment attaquer les militaires, pas simplement pour les attaquer, mais pour prendre des prisonniers.
Des otages.
Alors, De nouveau, le terme d'otage et prisonnier, j'essaye de nuancer le propos. Quand vous avez quand vous battez avec des militaires, par exemple maintenant, actuellement, vous avez principalement des militaires qui sont encore détenus par les Palestiniens. On est avec des combattants. Donc, on n'oublie pas que c'est une organisation de résistance qui se bat contre un occupant. On a des militaires, ils se battent contre des militaires.
Donc, vous préférez prisonniers dans les circonstances ?
Pour les militaires, on est avec des prisonniers. Pour les civils, là, on peut vraiment discuter la question. Les Palestiniens préfèrent utiliser le terme palestinien. Moi, je prétends que le terme otage est peut-être justifié pour les civils. Parce que les civils n'ont rien à faire avec ça, en principe. Donc, pour les civils, on peut parler d'otage, mais pour les militaires, ce sont les prisonniers. Et c'était ce que voulaient faire les Palestiniens. Pourquoi voulaient-ils le faire ? De nouveau, on a tendance toujours à prendre les choses à face value. N'est-ce pas ? C'est-à-dire la valeur nominale quand on voit... Mais il y a une raison pour laquelle les Palestiniens voulaient ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des négociations qui étaient menées en 2021 déjà pour la libération des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Donc il y a à peu près, grosso modo, plus de 5000 Palestiniens qui sont détenus dans les prisons palestiniennes, dont plus de 1000 qui sont détenus sans charge même. Et en plus, il y a des enfants. Bon,
pas d'accusation officielle.
Voilà, c'est ça. Aucune charge. Pas d'accusation. Il n'y a pas de raison officiellement annoncée pour leur détention. Et souvent, d'ailleurs, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, quand ils sont arrêtés, c'est en fait pour faire pression sur la famille. Voilà. Donc on est un petit peu dans une manière d'otage aussi de la part d'Israéliens. Mais bref, on ne va pas entrer dans cette discussion-là, parce que vous prenez des gens sans acte d'accusation, donc qui n'ont pas commis de crime a priori, donc il y a autre chose derrière. Et effectivement, c'est pour faire pression sur la population palestinienne. Donc on est avec un otage. Donc cette politique de prise d'otage, si vous voulez, elle est vraiment partagée là, en l'occurrence, des deux côtés. Et il y a eu des négociations qui étaient menées entre le Hamas et l'État d'Israël par l'entremise du Qatar. Et puis, ces négociations ont été rompues lorsque le gouvernement de Netanyahou est arrivé. Et là, fini, plus de négociations. Et l'idée des Palestiniens, c'était de ramener les Palestiniens à la table de négociation. Mais pour le faire, il fallait prendre des prisonniers. C'est pour ça que l'idée de sortir de la base, aller prendre des militaires, de façon à les échanger, c'était ça le but de l'opération. Et pourquoi des militaires ? Parce que ils pensent, à tort ou à raison, je ne sais pas si c'est vraiment, on peut l'estimer, que les Israéliens sont plus prêts à faire des concessions pour libérer des militaires que pour libérer des civils. Voilà. Et c'est ça le but d'opération.
Donc tous les prisonniers n'ont pas le même poids.
C'est en tout cas ce que les Palestiniens perçoivent, à tort ou à raison, je ne sais pas.
L'opération révèle plusieurs choses, à commencer peut-être par la vulnérabilité grande d'Israël. Or, historiquement, et la légende aussi du pays, c'est que ses services de renseignement militaires et civils sont imparables, et qu'il contrôle toujours parfaitement la situation.
Disons que là,
Il y a des lézardes, là.
Vous allez un peu au-delà même du narratif officiel.
Je ne fais que le caricaturer pour comprendre peut-être aussi la déconvenue octobre dernier.
Parce que non, alors, moi j'ai travaillé avec les services, j'ai travaillé un peu avec tous les services à l'époque, et on travaillait aussi avec les services israéliens. Donc, on sait un petit peu la manière dont ils travaillent. Alors, les services israéliens, les services de renseignement, bien sûr, sont des services qui sont, d'abord, ils sont orientés sur la menace qu'ils perçoivent, c'est-à-dire le terrorisme, les Palestiniens, etc. Et ça, c'est un domaine sur lesquels ils sont incomparables, parce que évidemment ils ont leurs informateurs, c'est leur territoire, c'est leur réseau, donc là, ils savent très très bien qui est qui, etc. Ils savent, et je dirais, ils savent qui est qui. Je suis pas sûr qu'ils arrivent toujours à bien comprendre comment tout ça fonctionne. Et là vient un deuxième facteur, parce que, n'est-ce pas, savoir qui est le chef de telle cellule, ça, c'est relativement facile. Et puis, savoir s'ils ont reçu des armes ou des choses comme ça, ça, c'est relativement facile. Plus problématique est d'interpréter une doctrine de combat ou d'interpréter une stratégie, par exemple. Et là, les Israéliens n'ont jamais été très forts. Ils sont très forts dans la détection des terroristes, dans le suivi des terroristes, dans leur élimination. Ça, ils sont très, très forts. Ils sont beaucoup plus difficiles, ils ont beaucoup plus de problèmes à comprendre comment pense l'adversaire.
Ils ont sous-estimé leur adversaire dans le cas qui nous intéresse.
Mais comme tout le monde l'a fait. En fait, ici, on cristallise nos remarques sur un territoire qui est très petit, qui est celui d'Israël. Mais en réalité, tous les services occidentaux font exactement la même chose. Tous les services occidentaux ont exactement les mêmes faiblesses que les services israéliens. C'est-à-dire que les services, surtout en matière de terrorisme, nos services, traditionnellement, les services de renseignement ont une généalogie plutôt militaire, où on évalue le terrain sur l'ennemi sur le terrain. Alors, pour simplifier, n'est-ce pas, un commandant russe, il réfléchit certainement à sa manière, etc. Mais ses chars avancent à peu près à la même vitesse que les nôtres, ils tirent à peu près à la même distance que les nôtres. Donc, si vous voulez, les conditions des uns et des autres fait que vous pouvez comprendre comment va agir l'adversaire sans même trop penser à sa propre manière de penser. Vous voyez, vous pouvez projeter votre propre perception des choses sur l'adversaire et vous dire, si moi je fais ça, il fera probablement ça. Voilà, c'est assez facile. C'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes au Moyen-Orient avec des gens qui ont une logique différente. Et je reviens à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la notion de victoire, par exemple. Quand votre notion de victoire, c'est d'écraser l'adversaire, mais que pour l'autre, sa notion de victoire, c'est simplement de résister, vous êtes dans exactement ce que j'appelle le conflit asymétrique. C'est pour ça que c'est asymétrique. C'est parce qu'on n'a plus, il n'y a pas de symétrie dans la perception des éléments du combat. Résultat des courses, et je me rappelle de cette, j'ai toujours, et je le mentionne d'ailleurs dans mon livre, cette couverture de The Economist en 2006, où, après qu'Israël ait totalement détruit le sud Liban, bombardé, créé des milliards de dégâts, vous avez dans la couverture de l'Economist, Nasrallah wins. Donc le Hezbollah gagne, en quelque sorte. Et ça montre exactement la différence de perception qu'ont les Israéliens. Ils ont de la peine à comprendre que les autres aient une autre logique de combat. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand on a dit que les Israéliens étaient infaillibles, que leur service était, etc., on s'est beaucoup basé en réalité sur ce qui s'était passé en 1967. En 1967, et d'ailleurs jusqu'en 1967, on pourrait dire, les Israéliens ont toujours gagné, et ils ont cette réputation d'invulnérabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours attaqué les autres, alors que les autres s'y attendaient pas. Alors, évidemment, vous jouez un peu sur du velours. 1948, j'ai évoqué tout à l'heure que l'armée israélienne était composée en grande partie de vétérans de la 8e armée britannique ou de l'armée britannique en général. Et c'était des gens qui étaient aguerris, qui avaient une expérience de commandement, du combat, etc. Et ils ont pu vaincre assez facilement les Bédouins. En 1967, on a eu à peu près la même chose, parce que les pays arabes n'étaient pas du tout prêts à une guerre contre Israël. Israël a attaqué, donc ils ont eu très rapidement du succès. Le problème, c'est compliqué, par exemple, en 2006, où les Israéliens n'ont pas su évaluer la résistance du Hezbollah. Et déjà en 2006, d'ailleurs, ça a donné lieu à des commissions d'enquête en Israël même, parce que les services de renseignement n'ont absolument pas perçu la résistance que pouvait offrir le Hezbollah, malgré les destructions. N'est-ce pas ? C'est-à-dire le même phénomène qu'on retrouve aujourd'hui à Gaza. Exactement le même.
Alors, sur un horizon stratégique, est-ce qu'aujourd'hui, la victoire très destructrice d'Israël à Gaza pourrait marquer la fin stratégique de son ascendant dans la région?
Alors aujourd'hui, c'est très nettement le cas, parce que, d'ailleurs, il faut bien comprendre que déjà en 1950, maintenant j'ai la date, est-ce que c'est 51 ou 55, je le cite dans le livre, mais j'ai plus la date exactement en tête, c'est le jeune, celui qui avait un œil,
Moshe Dayan,
exactement, c'est le jeune Moshe Dayan qui écrit l'embryon d'une doctrine qui est qu'il faut réagir très fort, parce que Israël ne parviendra à finalement s'imposer par rapport aux pays qui l'entourent que s'il parvient à montrer qu'il est impitoyable. Et il faut inspirer la crainte. Ça, c'est une doctrine qu'on retrouve après dans les éléments doctrinaux, qu'on retrouve la doctrine Hannibal, la doctrine Daria, la doctrine Bethléem, que je décris dans mon livre, qui sont des doctrines utilisées aujourd'hui par les Israéliens. Mais Ces éléments doctrinaux sont basés sur l'idée que Israël doit inspirer la crainte. Et c'est comme ça qu'elle arrivera à s'imposer. Alors, ça marche jusqu'à un certain point, parce que à partir du moment où vous mettez le paquet pour créer la crainte, puis que ça marche pas, et que malgré tout, parce qu'aujourd'hui, au jour où nous parlons aujourd'hui à Gaza, l'armée israélienne ne maîtrise à peu près aucun secteur de Gaza. Donc ils sont un peu partout, mais ils n'en maîtrisent aucun.
Votre prétention, c'est que le Hamas est encore assez bien organisé, contrairement à ce que disent les Israéliens.
Alors, c'est une constatation même qu'on peut voir tous les jours, qui est naturellement, c'est contre ce que les Israéliens disent. Mais là, en l'occurrence, c'est une réalité. Le Hamas continue à maîtriser le terrain. Et on voit très bien que les structures de conduite n'ont pas été détruites, parce qu'on voit que les actions du Hamas restent très bien coordonnées, malgré tout. On constate que ces actions du Hamas sont toujours approvisionnées, donc ça veut dire qu'il y a toujours une logistique qui fonctionne. Ça veut dire qu'il y a toujours une conduite qui fonctionne. Ça veut dire qu'il y a aussi toujours des objectifs. Et on voit que ça va très loin. C'était début janvier, sauf erreur, il y avait le chef d'état-major de l'armée israélienne qui est venu à Khan Younes pour inspecter les troupes, venir auprès des troupes. Et là, probablement à titre de provocation, le Hamas a tiré à quelques dizaines de mètres de l'endroit où était le chef d'état-major. Ils ont tiré une volée de roquettes depuis ces positions-là, pour montrer que vous êtes là, mais vous voyez que vous maîtrisez rien. Voilà. Et ce phénomène-là s'est répété, on le retrouve dans plusieurs endroits, ce qui montre que les Israéliens ont payé un prix très fort d'ailleurs humainement, parce que c'est probablement aujourd'hui le conflit où l'armée israélienne a le plus de pertes qu'ils n'ont jamais eues, n'est-ce pas ? Donc c'est quand même important. Pertes, donc quand je parle de pertes, je parle des morts, mais il y a aussi les blessés, et puis il y a tous ceux qui ont des troubles
post-traumatique,
exactement, et qui semble-t-il sont très importants, puisqu'il y a déjà des articles dans la presse israélienne sur la santé mentale des combattants israéliens.
Mais je reviens à cette question de l'horizon stratégique.
Alors,
est-ce que l'hubris, c'est une question que j'ai posée aussi à Alain Juillet, je l'invoque à chaque fois qu'on se parle, vous et moi, mais est-ce que l'hubris, parce qu'il y a un peu de ça dans la démarche israélienne, pourrait faire en sorte que le meilleur intérêt d'Israël soit compromis par sa propre force?
Alors, c'est pas simplement un hubris, parce qu'il y a cette idée, de nouveau, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que Israël a une politique de sécurité qui est basée sur l'usage de la force. C'est pour ça d'ailleurs que je fais dans mon livre une comparaison entre mon pays, la Suisse, et Israël. C'est deux pays qui ont à peu près la même taille, qui avaient, aujourd'hui pour la Suisse, ça a un peu changé ces 50, 60 dernières années. Mais en gros, on a à peu près la même situation stratégique, c'est-à-dire un petit pays entouré de grandes puissances, que le petit pays considère parfois comme des menaces, n'est-ce pas ? Alors maintenant, ça n'est plus le cas en Europe. Mais pendant longtemps, les grandes puissances qui nous entouraient étaient considérées comme menaçantes. Hein. Et donc, il y a une politique de sécurité qui s'est dégagée dans ces deux pays, qui est diamétralement opposée. La Suisse a une politique de sécurité en disant on va éviter la menace en favorisant la stabilité de notre environnement et en favorisant la coopération avec nos voisins. Alors qu'en Israël, on a appliqué la doctrine inverse, c'est-à-dire qu'on a dit non, il faut que nous montrions à nos ennemis qu'on est impitoyable, et puis on va essayer de perturber leur politique intérieure. Et c'est pour ça qu'Israël a soutenu la révolution en Syrie, au Liban, même en Jordanie à certains moments, et même en Égypte, et même au Soudan d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a une politique israélienne qui est beaucoup plus agressive, qui rejoint ce que disait finalement Moshe Dayan en 1955, c'est-à-dire il faut faire peur. Et notre sécurité dépend de notre capacité à être finalement, à montrer qu'on est invulnérable et puis voilà.
Et impitoyable, oui. Mais si on ne fait plus peur, évidemment, le bluff tombe.
Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, les Israéliens ont mis tellement d'efforts à expliquer qu'il fallait taper fort et que finalement cette force qu'ils ont montrée ne montre pas un effet de correspondant, si vous voulez. Donc, si vous êtes pas, si vous savez que vous n'êtes pas capable de taper fort, il vaut mieux pas trop le mettre en avant. Or là, il y a un écart entre le discours et le résultat. Et c'est là que Israël est en fait, stratégiquement, il s'est mis dans une posture négative.
Je vous dirais que si j'étais Gazaoui, j'aurais l'impression qu'ils savent taper fort parce qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup de dégâts.
Non, j'ai pas dit qu'ils pouvaient pas taper fort. Comprenez-moi bien, c'est l'écart. Quand vous tapez fort et que, si vous voulez montrer que vous êtes fort, Il faut montrer que vous avez que la force que vous utilisez a un effet. Ça vous sert à rien de montrer que vous êtes capable de faire tomber le feu du ciel sur un endroit si ça n'a pas d'effet.
Et ça ne change pas la résolution de votre adversaire.
Voilà.
Avant qu'on se quitte très rapidement, parce que les choses, il se trouve que l'Europe vous intéresse aussi, les choses ont beaucoup évolué au cours des dernières semaines, et on est dans un cas de figure où il y a un président français, M. Macron, qui donne l'impression de partir en guerre, donc on pourrait dire Macron s'en va en guerre. Qu'est-ce que vous faites de ces déclarations qui sont, semble-t-il, un peu surprenantes et qui n'ont pour l'instant pas un écho auprès des autres membres pays de l'OTAN? Est-ce qu'il est le fer de lance de quelque chose qui pourrait changer?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que on voit d'une manière générale en Europe en ce moment, d'ailleurs, on pourrait même dire en Occident, parce que ça concerne aussi les États-Unis, sauf que les États-Unis ont un regard plus pragmatique sur ces événements. Depuis longtemps, les Américains voient qu'ils ont perdu la partie en Ukraine. Et quand je dis depuis longtemps, c'est depuis la fin 2022. Et depuis 2022, les États-Unis essayent de pousser Zelensky à la négociation. Alors, ils ne peuvent pas le forcer, mais ils essayent de le pousser. Ils le poussent à leur manière, c'est un peu toujours un peu ambigu, c'est la même chose qu'à Gaza, où on essaye de pousser d'un côté, mais on lui donne quand même des armes. Si on voulait vraiment le pousser, on lui dirait maintenant, soit tu négocies, soit on te donne des armes, mais c'est pas les deux, quoi. Et c'est exactement la même situation qu'à Gaza avec Netanyahou, si vous voulez. Donc, avec Zelensky, il y a un peu ce discours ambigu, mais l'idée que le conflit ne pourra pas se terminer sans dommage sérieux à l'Ukraine et qu'il faudrait probablement commencer à discuter. Et d'ailleurs, tout ça n'est pas nouveau puisque j'avais à votre micro évoqué le rapport de Rand Corporation de 2019 qui disait déjà que l'application de la stratégie américaine pourrait conduire à une paix défavorable aux Ukrainiens. Donc les Américains savent que on est dans une voie sans issue et ils essayent. Les Européens n'ont pas encore réalisé ça pleinement et on est actuellement dans une espèce de protection du narratif d'une certaine manière. C'est-à-dire que on a dit on négocie pas avec Vladimir Poutine. Bon. Et on continue à se battre. Mais on n'a jamais fixé d'objectif, d'ailleurs. On ne sait pas vraiment quel objectif on cherche à atteindre. Comprenez, on voit cette idée en filigrane que, à terme, les Russes devraient se retirer de l'Ukraine et il ne devrait pas y avoir de comment dire, les Russes, enfin, on devrait retrouver une statue quanté de 2014. Voilà. Mais, à l'inverse, vous voyez, quand Zelensky a fait sa proposition en mars 2022, il a fait une proposition que j'avais évoquée dans mon premier livre Opération Z, d'ailleurs, parce que la presse ukrainienne à l'époque en a parlé. Depuis, on en a reparlé l'année passée, mais c'était du réchauffé parce qu'on le savait déjà. Si on avait négocié à ce moment-là, il y aurait plus de Russes en Ukraine aujourd'hui. Faut bien réaliser ça.
Donc, mais là, il est question de déployer des Français en Ukraine.
Alors voilà, on est dans une fuite en avant, en quelque sorte. Parce que, on voit, les Européens ne veulent plus faire marche arrière. Ils disent, on négocie pas. Et toutes les tentatives, y compris d'ailleurs celle du pape récemment, qui disait qu'on devrait lever le drapeau blanc de la capitulation, etc. Tout ça est violemment contredit en Europe, par les Ukrainiens aussi d'ailleurs, mais aussi par les Européens qui ne veulent pas négocier parce que pour eux, c'est toute leur accord politique des deux dernières années qui s'effondrerait si tout d'un coup on négociait, parce qu'ils ont toujours dit pas de négociation avec la Russie.
Bon. Et c'est marrant parce qu'aux États-Unis, on a congédié ni plus ni moins Mme Nuland, qui était aux manettes probablement la plus acharnée du côté ukrainien.
Tout à fait.
Je dis congédié, même si elle a officiellement annoncé qu'elle prenait.
Oui, mais la manière de le faire montre qu'on a effectivement
congédié.
Alors,
comment expliquer que d'un côté, les Américains se résignent peut-être à ce que les jeux sont faits en Ukraine et qu'à Paris, il y a un président omnipotent, omnipuissant qui dit non, non, s'il le faut, nous irons seuls.
Il n'est pas omnipuissant. Il fait.
C'était ironique.
Il fait comme s'il était omnipuissant. C'est, de nouveau, il ne faut pas lui donner l'importance qu'il n'a pas. et on voit de toute façon qu'en Europe, les avis divergent. Néanmoins, le problème de cette position est qu'effectivement, il pourrait inciter d'autres pays à aller, si vous voulez, au-devant de leur propre narrative, parce qu'on est dans on est dans la fuite en avant, ni plus ni moins. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi on enverrait ces troupes. Dans quel but? On ne sait même pas quel type de troupes, d'ailleurs. Donc on est dans quelque chose qui n'a ni queue ni tête, en réalité. Et je pense qu'il y a un problème qui est probablement un peu au-delà de la politique. On est probablement dans un registre plus personnel concernant Macron et Vladimir Poutine. Macron semble avoir été... parce qu'il y a un côté très individuel dans cette manière de réagir et beaucoup de commentateurs se disent il y a un problème personnel. Et ce problème personnel, il est probablement lié au fait que Macron avait voulu se donner le rôle du sauveur de l'humanité en février 2022. En voulant faire une négociation de la dernière chance avec Vladimir Poutine. En réalité, le problème qui s'est posé à Macron, comme on l'a constaté, d'ailleurs je l'avais même écrit dans mes ouvrages précédents, le problème c'est que Macron n'a rien compris à ce conflit. S'il avait voulu l'éviter, il aurait déjà commencé par appliquer les accords de Minsk, mais ça il les a pas lus. On le sait parce que dans la conversation qui a été enregistrée avec Vladimir Poutine, il montre par ses déclarations qu'il n'a pas lu, il ne connaît pas le contenu de ces accords. Donc c'est un gars qui n'a rien lu, il ne sait pas de quoi il parle. Et puis il réagit un peu comme un enfant gâté en quelque sorte. Et Vladimir Poutine lui dit mais si même tu ne sais pas de quoi tu parles, on ne peut pas vraiment discuter. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc il y a probablement là une espèce de déception de la part de Macron et de son équipe, parce que nous on parle d'un président, mais quand on y réfléchit bien, c'est le système qui est derrière lui qui est aussi en cause, y compris les services de renseignement qui n'ont pas réussi à imposer une image de la situation qui soit de nature à éclairer la décision de Macron. Donc ça veut dire soit que Macron ne sait pas lire ce que les services lui ont dit, soit que les services ne sont pas capables de lui dire ce dont il a besoin. Mais en tout état de cause, ce qu'on constate, c'est que Macron n'avait pas la bonne image de la situation et que donc il n'a pas pu discuter valablement avec Vladimir Poutine. Et ça explique probablement aujourd'hui ce côté très passionnel, très émotionnel.
Et ce ressentiment.
Tout à fait.
Jacques Beau, c'est sur cette idée du ressentiment qu'on ne veut pas dominant dans les rapports entre les États qu'on va mettre un point à notre conversation. Jacques Beau, c'est Opération Déluge d'Al-Aqsa, la défaite du vainqueur. Je vous rappelle donc ce livre qui sort aujourd'hui. Tout à l'heure, vous m'avez corrigé en me disant que vous n'aviez jamais été chef d'état-major. Alors sur votre bio, ça dit Jacques Beau est colonel chef d'état-major, si vous voulez voir.
Ça dit chef d'état-major?
C'est ce que ça dit. Donc vous parlerez avec l'éditeur. J'ai été induit en erreur par celui qui vous publie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez envie de partager cet épisode, surtout ne vous gênez pas. Et il concède qu'il y a une petite erreur, c'est très marrant. Et puis, à la maison aussi, un petit rappel à ce que notre équipe est toujours à la manœuvre. Jeanne Croteau à la réalisation et puis Marianne Grenon à la recherche. Stéphane Bureau, microphone. À nouveau, Jacques Beau, merci.
Merci à vous.